Pouvez vous asseoir. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une réflexion sur un des objets un peu mystérieux de l'Ancien Testament, qui est l'Arche d'Alliance. Vous savez, l'Arche d'Alliance était ce coffre de bois d'acacia recouvert d'or que les Hébreux trimbalaient partout avec eux, en particulier dans leur traversée du désert pendant 40 ans. Et cette Arche d'Alliance symbolisait pour eux la présence même de Dieu. Et donc, il la mettait chaque fois qu'il campait dans une tente, le tabernacle. Et puis, une fois arrivé à Jérusalem, le roi Salomon va donc construire un temple pour abriter cette arche d'alliance qui symbolisait la présence, je vous dis, la présence même de Dieu au milieu de son peuple. Et donc, la question que je m'étais posée il y a quelque temps, c'est de savoir, très bien, cette arche d'alliance représente la présence de Dieu, mais qu'y avait-il dans l'Arche d'Alliance? Alors, il y avait plusieurs choses et vous allez vous-même les découvrir. Tout d'abord, je vous lirai, ou plutôt, on sait, excusez-moi, qu'il y avait dans cette Arche d'Alliance, la première chose, c'était les tables de la loi, évidemment. Mais ce n'est pas tout. Il y avait d'autres choses et pour les comprendre, il faut que je vous lise quelques passages. D'abord, dans le livre de l'Exode au chapitre 16, où il se passe, enfin c'est l'épisode de la manne. L'Éternel parla à Moïse et dit « J'ai entendu les murmures des Israélites, parle-leur en ces termes. Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasirez de pain et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Et quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Et les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Mais qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Et donc, un peu plus loin, au verset 31, on nous dit que la maison d'Israël donna à ce pain le nom de manne parce qu'il ressemblait à de la graine de coriandre. Il était blanc et avait le goût d'un gâteau de miel. Et Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un plein omer de manne soit conservé pour vos générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc voilà la deuxième chose qu'avait dans l'Arche d'Alliance, un peu de manne. Ensuite, troisième objet mystérieux dans cette arche, dont nous trouverons le récit en Nombre au chapitre 17, au verset 16. En effet, il y a eu à ce moment-là une révolte, ça s'appelle la révolte des fils de Corée, qui se sont révoltés contre Moïse, en disant que, enfin, contre Moïse et surtout Aaron, le chef des Lévites, c'est-à-dire la tribu des prêtres, et les autres tribus disaient qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait une tribu qui ait la dignité d'être prêtre, et qu'après tout, tout le monde pouvait tout à fait être prêtre, et qu'on n'avait pas besoin ni d'Aaron, ni des Lévites. Alors voilà la réponse de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, fais-toi donner par eux un bâton selon leur famille. » C'est-à-dire que chaque tribu avait un sceptre de commandement, en fait, un bâton qui représentait leur tribu. Donc, le bâton de chaque famille, soit 12 bâtons de la part de tous les princes selon leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. Tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, donc où il y avait l'Arche d'Alliance, devant le témoignage, c'était un autre nom de l'Arche d'Alliance, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton bourgeonnera, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent entre vous les Israélites. » Donc vous voyez que la contestation devant le pouvoir ne date pas d'aujourd'hui, et Dieu n'invite pas à une manifestation au Trocadéro, mais à quelque chose qui pourra légitimer le fait que les Lévites aient le droit d'avoir ce pouvoir. Je continue. Moïse parla aux Israélites. Et tous les chefs donc donnèrent un bâton chacun, chaque chef un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons. Le bâton d'Aaron était au milieu des autres. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici que le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait bourgeonné. Il avait fait éclore des bourgeons, produit des fleurs et mûri des amandes. Et l'Éternel retira de devant l'Éternel tous les bâtons, il les rendit aux Israélites, ils les virent et reprirent chacun leur bâton. Et l'Éternel dit à Moïse, « Reporte le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les rebelles, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent pas. » Moïse fit ainsi, il agit comme l'Éternel le lui avait ordonné. Alors vous me direz, il n'est pas dit là explicitement qu'ils sont mis dans l'arche, en tout cas ils sont gardés pas loin, mais nous avons le témoignage de l'Épître aux Hébreux qui nous parle également de cela au chapitre 9. Il y avait, dit l'Épître aux Hébreux, la première alliance qui avait elle aussi des ordonnances relatives au culte et à son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie appelée lieu saint, se trouvaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait une partie appelée le Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'Arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant de la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Alors, nous chantons le cantique, si je ne me trompe pas, numéro 264, les trois strophes. Vous asseoir. Donc voilà ces trois objets qui se trouvaient dans l'Arche d'Alliance, c'est-à-dire trois choses qui sont bonnes, sont aptes à représenter ce qu'est la présence réelle de Dieu, dirais-je. Alors la présence des tables de la loi est la plus évidente. Les tables de la loi, c'est la parole même de Dieu. Pour nous, on dirait que les tables de la loi, bien, c'est la Bible elle-même. Alors que la présence de Dieu se trouve dans la Bible, ça, c'est vraiment, ça fait plaisir aux protestants, puisque c'est ce qu'affirment les réformateurs depuis toujours, où ils disent que la présence réelle, elle n'est pas dans un sacrement qui serait offert par un ministre ordonné par l'Église, mais que la présence réelle de Dieu, on la trouve dans la parole. Et c'est donc chacun peut prendre sa Bible, lire la Bible, et bénéficier de cette présence réelle de Dieu qui se révèle à lui dans la lecture de la parole. C'est pourquoi d'ailleurs, les protestants peuvent se passer de temple. Je ne dis pas ça pour vous partir, puisque vous êtes là et c'est bien, mais néanmoins on peut s'en passer, puisqu'on peut lire la Bible chez soi, alors qu'on ne peut pas avoir l'Eucharistie chez soi tout seul. Donc le catholique est obligé de passer par l'Église pour avoir la présence réelle, alors que nous n'en avons pas besoin. Donc oui, ça je comprends, la présence de Dieu se trouve dans sa parole. Et je comprends bien cela. La présence des autres objets est plus difficile à comprendre. D'abord, vous disais-je, il y a de la manne. Alors pourquoi est-ce que la manne peut-elle représenter la présence de Dieu? Eh bien ça, je l'ai découvert grâce à mes enfants de l'école biblique. Un jour où je faisais la leçon sur la manne dans le livre de l'Exode, il y a un des enfants qui me dit « Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la manne ?» Alors, comme j'ai fait un petit peu d'hébreu, je leur dis « C'est parce que, c'est d'ailleurs dit dans le texte, et les Juifs ne savaient pas ce qu'était cette chose-là, et comme ils ne savaient pas ce que c'était, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et « Qu'est-ce que c'est ?» en hébreu, ça se dit « Man ». Voilà, « Manhu » en hébreu, c'est quoi ça? Et comme ils n'ont pas su répondre, ils ont appelé ça du « Qu'est-ce que c'est ?» C'est un peu comme en français ou en allemand, je ne sais pas, vous savez, un vasistas, c'est-à-dire une petite fenêtre dans une porte, c'est « vasistas, qu'est-ce qu'il y a là-dedans » Et donc un vasistas, c'est « qu'est-ce qui se passe-t-il dans une pièce ?» C'est ce qui permet de regarder à travers une cloison. Et donc la manne, ça s'appelle du « qu'est-ce que c'est ?» Et là, c'est très étrange parce que je dirais que c'est donc en soi une question. Et j'ai lu une fois un commentaire d'un théologien juif que j'aime beaucoup, qui est Marc-Alain Waknin, et qui, justement, parlant sur cet épisode de la manne, dit « Voilà quelque chose d'étrange, un Dieu qui nourrit son peuple dans son trajet dans le désert, et il le nourrit par des questions. » C'est-à-dire qu'en fait, Dieu nourrit le peuple par des questions plus que par des réponses. Alors ça m'enchante, parce que justement, je crois que ce qui nous fait avancer, ce sont les questions. C'est le questionnement. Et je crois donc, par conséquent, que cette façon de dire « je vais mettre la manne à côté de la parole », c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi, parce que c'est l'antifondamentalisme. C'est-à-dire que c'est une parole qui n'est pas une sorte de parole qui s'impose à vous en disant « je vais vous dire une vérité à laquelle vous devez adhérer, je vais vous dire une morale à laquelle vous devez obéir », mais je vais vous dire une parole qui pour vous sera question. Et c'est pour moi extraordinaire parce que justement, vous voyez, cette Bible, tout à l'heure, quand je vous ai dit la présence réelle de Dieu se trouve dans la parole, on aurait pu craindre qu'on divinise finalement la parole en disant que c'est une sorte d'hypostase divine. Eh bien non, cette parole, elle me fait grandir parce qu'elle me questionne et que par conséquent, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui est dans la Bible, ni de croire tout ce qui est écrit. Mais néanmoins, je dois prendre chaque chose comme une interrogation dans ma propre vie, et c'est dans ce sens que ça me fait avancer. Ou alors, on peut aussi aller autrement en disant que Dieu fait très attention, en disant justement, je mets dans l'Arche d'Alliance, je mets une Bible, et à côté, je mets quelque chose qui est le questionnement, c'est-à-dire que j'ai le droit de questionner la Bible, vous voyez. Et justement, là encore, c'est un déminage du fondamentalisme. La présence réelle de Dieu, c'est une Bible que je questionne. Donc j'ai le droit de la maltraiter, de la questionner, de l'interroger. J'ai le droit d'avoir une lecture critique par rapport à ce livre. Et c'est à ce moment-là que Dieu va se révéler, parce que Dieu ne s'enferme pas dans un texte mort, mais Dieu, c'est une parole vivante qui surgit lorsque je frappe l'écriture de mes questions. Marc-Alain Waknin, encore lui, a développé cette thèse que j'aime en disant « La Bible, c'est comme une pièce de métal, et pour que la lumière en jaillisse, il faut que je frappe dessus avec un marteau, et quand je frappe sur le texte, il y a des étincelles qui jaillissent, et ces étincelles, c'est ça qui éclaire. » Et donc, il avait cette idée, justement, que la Bible elle-même ne peut donner de la lumière que si je la maltraite, que si je la frappe, que si je la cogne contre mes propres idées, contre mes questionnements, et alors ça fait jaillir une multitude d'étincelles qui sont source de vie et de lumière. Cela est bien. Reste le bâton d'Aaron. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi y avait-il effectivement ce bâton d'Aaron dans l'Arche d'Alliance? Eh bien, je vous ai lu le passage et je vous ai même expliqué d'où il venait, c'est-à-dire que ce qui était en cause, c'était la légitimité de l'existence du sacerdoce des Lévites, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait une caste de prêtres qui mettent en relation avec Dieu. Autrement dit, ce qui est en question dans le bâton d'Aaron, c'est, je dirais, pour nous aujourd'hui, la présence de l'Église dans notre propre relation à Dieu. Et les fils de Corée, qui se sont révoltés contre ça, en gros, on dit, écoutez, nous pouvons très bien nous passer des Lévites. On n'a pas besoin de prêtres, pas besoin de culte, pas besoin de rien. Après tout, nous sommes tous aussi malins que les Lévites, et donc on peut se passer de tous ces gens-là. Et là, je crois que justement, je dirais, Moïse a fait attention en disant, écoutez, non, ou Dieu, que vous voulez, a dit non, les Lévites sont extrêmement importants. Autrement dit, cela nous rappelle l'importance dans notre relation à Dieu de l'Église. C'est-à-dire que oui, bien sûr, la présence, je l'ai dit tout à l'heure, elle est dans la parole, mais néanmoins, il est bon qu'il y ait une institution qui nous aide à partager cette parole. Il est bon qu'il y ait des cultes, il est bon qu'il y ait des paroisses, il est bon qu'il y ait des catéchismes organisés, il est bon qu'il y ait des sacrements, des baptêmes, des communions, des mariages, des services funèbres. Toute cette organisation de l'Église nous aide aussi à nous mettre en relation avec Dieu, et d'une certaine manière, Dieu est aussi présent dans l'Assemblée, si vous voulez. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, puisque dans le début de ma liturgie, à la place de l'invocation, j'ai rappelé ces mots de l'Évangile, qui dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Il dit en mon nom, il ne dit pas si deux ou trois sont là pour lire et interroger l'Écriture. Donc le simple fait d'être réuni au nom du Seigneur, eh bien d'une certaine façon, ça rend Dieu présent. Autrement dit, l'Église, la communauté, l'Assemblée est quelque chose d'essentiel, et ce sont des éléments qui sont fondamentaux. Et donc la parole et le questionnement ne suffisent pas, il faut qu'il y ait de l'Église en plus. Alors vous me direz, c'est là une sorte de plaidoirie pour le catholicisme qui dit qu'on ne peut accéder à Dieu que par l'Église. Eh bien, peut-être pas, je vais vous dire pourquoi, mais je vous dirais que même en défendant la place de l'Église, je ne suis pas aussi anti-protestant que j'en ai l'air. Parce que Calvin lui-même disait que la chose essentielle, c'est que la parole de Dieu soit pleinement prêchée et les sacrements droitement administré. Et donc oui, Calvin aussi finalement disait qu'il y avait ces deux choses essentielles, la parole de Dieu prêchée et les sacrements administrés, et donc la parole et le bâton d'Aaron. Mais je dirais que, donc Calvin, si vous voulez, ne niait pas l'importance de toute Église, et il faut que les protestants fassent attention de ne pas trop dévaloriser le rôle de l'Église. Et quand on dit, ah ben oui, finalement, pour nous, on n'a pas besoin de l'Église, on peut très bien s'en passer, c'est peut-être aller un peu vite. Mais cela dit, là où je ne suis pas entièrement catholique, si vous voulez, c'est que la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est premier dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a les tables de la loi, il y a le bâton d'Aaron et la manne, donc la table, le questionnement et l'Église. Alors, le problème des catholiques, c'est qu'eux, ils mettent dans l'Arche d'Alliance le bâton d'Aaron, et puis l'étape de la loi et le questionnement, c'est derrière. Certains protestants fondamentalistes vont dire, dans l'Arche d'Alliance, on met l'étape de la loi, la parole elle-même, et puis on peut questionner un peu et on peut faire un peu d'église, mais tout ça, c'est secondaire. Ensuite, je dirais, les libéraux extrêmes mettraient en premier le questionnement, et puis finalement, la Bible, on s'en fiche un peu, tant qu'on se pose les bonnes questions, tout va bien. Et je dirais que ce texte, à mon avis, nous invite à essayer de rééquilibrer tout ça et à dire oui, il faut qu'il y ait de la parole, il faut qu'il y ait du questionnement et il faut qu'il y ait de la communauté et de l'Église, il faut qu'il y ait les trois. Mais cela dit, l'Épître aux Hébreux nous dit bien qu'il y avait les trois objets, mais si on lit les livres de théologiens savants, ils ne sont pas tout à fait d'accord et ils disent que ça n'est pas évident qu'au départ il y ait eu les trois objets dans l'arche. Et ils disent qu'en général, probablement, il y avait dans l'arche bien les tables de la loi et que la manne et le bâton n'étaient pas dans l'arche, mais à l'écart. Et donc, c'est bien la parole en premier, si vous voulez. Donc, c'est la parole en premier et cette parole est servie, je dirais, par deux choses qui sont le questionnement et l'Église. Bon, je vous laisse mélanger tout ça comme vous voulez, mais en tout cas, il faut garder les trois pieds du tabouret, sinon on tombe d'un côté ou de l'autre. Mais cela dit, on peut aller plus loin encore et trouver, c'est pas simplement un intérêt archéologique ou purement de théologie pratique sur l'organisation de la vie religieuse, on peut y trouver un sens aussi pour soi-même. Parce que vous savez que la question, c'est pas tellement la question du temple ou de la tente, mais c'est que pour nous, chrétiens, depuis Paul, nous disons que c'est nous qui sommes le temple du Seigneur. Et donc, c'est en nous que Dieu doit résider. Et autrement dit, c'est en nous que doivent se trouver ces trois éléments, que sont la parole, la manne et le bâton. Alors que la parole soit présente dans nos vies, ça c'est une évidence. C'est ce que dit d'ailleurs l'Écriture quand il dit que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Donc oui, c'est la première chose à laquelle nous devons prendre garde. Nous devons mettre cette parole en nous, nous devons l'intégrer, la manger, la digérer, la graver dans nos cœurs, et il faut que cette parole habite en nous, vraiment. Ça, c'est tout le travail de lecture, d'appropriation du texte, et c'est également ce que nous signifions au moment de la Sainte Cène, quand elle est présidée, et que nous disons que nous voulons manger le corps du Christ, c'est-à-dire nous voulons mettre en nous l'enseignement de Jésus, et qu'il nous nourrisse de l'intérieur, comme le pain nourrit notre corps, que notre vie soit nourrie de cette parole, de cet évangile qui habite pleinement en nous. Ensuite, qu'il y a en nous aussi de la manne, c'est évidemment que nous sachions nous-mêmes questionner ce texte, et ça je vous l'ai dit, mais c'est peut-être aussi que nous-mêmes, nous sachions être une question ambulante. C'est ce questionnement ambulant du chrétien me semble essentiel, parce que justement, il permettait d'éviter le fondamentalisme, il permet là, je crois, d'éviter le dogmatisme. Et que la seule chose grave, c'est de n'avoir aucune question. Notre foi elle-même doit être sans arrêt en question. Et nous ne devons pas vivre sur une sorte de trésor de guerre, de doctrine, de dogme, de certitude qu'on balancerait aux autres comme des sortes de condamnations à l'hérésie. Mais au contraire, notre vie en elle-même doit être sans arrêt questionnée. Se remettre en question, ne pas se contenter de ce que l'on sait, de ce que l'on pense, de ce que l'on croit, mais toujours continuer à questionner. Alors vous vous dites, vous, que bien sûr vous n'êtes pas dogmatique, donc vous ne vous sentez pas visé, mais combien parmi nous cessent de lire l'Évangile en pensant qu'ils le connaissent bien assez? Eh bien, faites un exercice, tenez, tout à l'heure, et essayez de réécrire, sans regarder l'Évangile, une parabole du Fils prodigue. Écrivez. Après, vous comparez avec le texte. Vous verrez deux choses. D'abord, que ce que vous écrivez, ça fait trois fois la longueur du texte biblique. Et l'autre chose, c'est que vous avez oublié des dizaines de choses absolument essentielles sur lesquelles on peut travailler. Et donc, toujours se dire, dans ce texte biblique et même dans ces paraboles que je connais le mieux, il y a encore et encore et encore quelque chose qui peut me questionner. Et puis, être une question, je crois que c'est aussi être une question pour les autres. Et de ce côté-là, c'est en cela que le chrétien peut être parfois un témoignage pour l'extérieur, en ce sens que le comportement du chrétien peut être un questionnement pour ceux qui sont autour. Et en effet, c'est ce que dit aussi Jésus d'ailleurs dans le sermon sur la montagne. Il dit, si vous faites comme n'importe qui, que faites-vous d'extraordinaire? Et on avait choisi ce verset pour les confirmations il y a quelque temps à l'Étoile. On disait aux jeunes, vous vous prétendez chrétien, mais que faites-vous d'extraordinaire? Si c'est pour vivre comme tout le monde, à quoi sert votre évangile? Et donc le chrétien témoigne dans le monde, parce qu'il y est, là il est question de l'ordre du témoignage, hein, non seulement parce que si j'ai Dieu en moi, je témoigne de cette présence, mais aussi parce que, vous l'avez entendu, cette tente de la rencontre, c'est le lieu où je rencontre Dieu, et c'est aussi la tente du témoignage, c'est-à-dire d'une façon de montrer aux autres quelque chose qui est de l'ordre de la présence de Dieu. Et donc, quel est ce témoignage que je donne au monde? C'est peut-être justement de susciter le questionnement, l'étonnement et l'interrogation, parce que justement, là, il y a quelqu'un qui réagit d'une manière qui n'est pas conforme au politiquement correct, je dirais, au bon sens du matérialisme ambiant, et il y a des comportements qui sont curieux et qui font réfléchir sur ce qui est essentiel et vrai dans la vie. Donc on est tout à fait à l'opposé du matraquage sectaire d'une vérité qui voudrait convertir le monde en donnant des réponses toutes faites, mais le chrétien témoigne, peut témoigner, parce qu'il est un questionnement dans sa vie. Et puis enfin, le bâton d'Aaron, alors là, enfin, je me retrouve enfin dans des sentiers plus protestants que tout à l'heure. J'ai eu peur. Tout à l'heure, en disant que le bâton d'Aaron était dans l'Arche d'Alliance, j'ai failli me convertir au catholicisme romain. Mais grâce à Paul, qui dit que nous sommes, nous, l'Arche d'Alliance, je dirais, eh bien voilà, ce bâton d'Aaron, il faut qu'il réside en chacun de vous. C'est le sacerdoce universel, en fait. Le sacerdoce universel, c'est-à-dire que chacun est prêtre et chacun peut gérer directement sa propre relation à Dieu et est responsable de sa propre relation à Dieu. Mais ça veut dire aussi, ce sacerdoce universel, c'est pas simplement pour soi, c'est aussi que chacun est prêtre pour les autres. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire que chaque chrétien doit se sentir aussi responsable d'aider l'autre à se mettre en relation avec Dieu. C'est-à-dire, le prêtre, c'est celui qui fait le lien entre l'homme et Dieu. Et dans quelle mesure, moi, je puis me considérer comme le prêtre de mon prochain, c'est-à-dire celui qui va l'aider à découvrir Dieu, à voir Dieu, à l'entendre et à le comprendre. Et c'est là, justement, qu'il y a cette question « Que faites-vous d'extraordinaire ?» est fondamentale. Parce que ce bâton d'Aaron, faudra relire toute l'histoire, mais si vous vous souvenez, ce bâton d'Aaron, il me semble que c'était à l'origine le bâton de Moïse, non ? Je demande à mes collègues éminents qui ont lu l'Écriture plus. Je crois que c'est le bâton de Moïse qui a servi de bâton d'Aaron. Et ce bâton de Moïse, il était formidable. Il faisait des prodiges. Il frappe le rocher, l'eau sort, il frappe la mer Rouge et elle se coupe en deux. Et il fait toutes les plaies d'Égypte. Et donc ce bâton d'Aaron, c'est justement des choses extraordinaires. Et que le chrétien puisse, avec sa foi, faire des grandes choses, ça c'est un questionnement et un témoignage merveilleux. Et comme dit l'Évangile, Jésus dit « Faites des choses formidables afin que les païens qui sont là et n'importe qui voient vos œuvres bonnes et qu'ainsi ils rendent gloire et qu'ils louent Dieu. » Alors voici tout ce que nous pouvons faire, vous disais-je, c'est cette manne, c'est cette parole, cette manne et ce bâton qui sont les différentes formes de la présence de Dieu, cette manne qui nous nourrit de l'intérieur, ce pain vivant qui nous questionne et ce bâton qui est aussi cette puissance de Dieu dont nous bénéficions parce que nous avons en nous toute cette puissance du bâton de Moïse, cette présence de Dieu qui permet de détruire ou de confondre le mal et l'adversité, cette présence de Dieu qui nous permet de traverser des mers, de traverser les difficultés, les épreuves et de traverser ce qui nous semblait intraversable. Nous avons en nous cette présence de Dieu qui fait surgir des sources d'eau vive, même quand nos vies semblent les plus desséchées, ce bâton d'Aaron et de Moïse qui nous permet d'avancer, d'être toujours en marche, eh bien ça c'est une chance extraordinaire pour nous et pour le témoignage. Mais donc vous disais-je, la base c'est quand même la parole de Dieu. Bon, je suis pas sûr finalement que l'Épître aux Hébreux ait raison. Je crois que vraiment, la base, c'est la parole. Et qu'ensuite, la manne et le bâton explicitent la manière avec laquelle cette présence de Dieu peut être présentée pour nous conduire justement vers la terre promise de la vie et du bonheur. Que cette manne, ce questionnement, c'est pour moi le questionnement et la réflexion, et pour les autres, c'est le témoignage. Et ce bâton d'Aaron, pour moi, c'est l'aide de l'Église. Et pour les autres, c'est de montrer tout ce que Dieu accomplit pour moi. Mais en tout cas, cette arche d'alliance n'est donc pas, comme je l'ai dit au début, un coffre d'acacia qui était il y a quelques milliers d'années dans une tente perdue dans le désert. Mais pour nous aujourd'hui, cette arche d'alliance, c'est cette précieuse présence de Dieu qui nous accompagne partout, comme elle accompagnait le peuple d'Israël dans toute sa démarche. Et donc la seule chose que nous devons faire, eh bien, c'est de ne pas oublier l'Arche d'Alliance dans un coin et de ne pas la mettre sans y prendre garde. Nous devons ne pas oublier d'emporter, comme le peuple hébreu, cette Arche d'Alliance dans tous nos déplacements. Et où que nous soyons, où que nous allions, quoi que nous fassions, il faut que nous ayons dans notre cœur cette petite Arche d'Alliance dans laquelle nous avons le trésor de cette parole, le trésor de ces questions, de cette présence de Dieu, de ces merveilles que Dieu nous fait. Et alors nous pouvons cheminer dans les déserts plus ou moins arides ou mystérieux de nos vies, Et alors nous sommes en chemin vers une terre promise qui est ce que Jésus nous a donné en abondance, de la joie, de la paix, de l'espérance, de la vie pour l'éternité et de l'amour que nous avons reçu en plénitude de la part de Dieu et que nous sommes invités à partager. Amen.